pour cette introduction. Bonjour à tous. C'est un plaisir pour moi, comme l'année dernière, de venir faire cette présentation. C'est un sacré challenge quand même d'essayer de parler de la recherche, parfois qui forcément utilise des termes assez techniques. Je vous autorise évidemment à poser des questions sur, si je n'ai pas été clair sur certaines choses. Bon, évidemment, l'idée, c'est d'être clair dès le départ, mais en tout cas, je suis à votre disposition si vous avez des questions. Donc, mon propos va tourner autour de trois thèmes. Le premier thème, ça sera où est-ce qu'on en est du diagnostic, et notamment du diagnostic précoce de la maladie d'Alzheimer. Quelles sont les perspectives pour un traitement curatif? Vous avez peut-être entendu parler d'un médicament qui est disponible aux États-Unis depuis cet été. Et quelles perspectives, du coup, sur le plan préventif? Donc, j'ai pas de gain d'intérêt spécifique avec les laboratoires, et notamment le laboratoire qui peut commercialiser le médicament dont je parlais à l'instant. Pour cette présentation. En résumé, qu'est-ce que c'est que la maladie d'Alzheimer? C'est une maladie qui évolue sur 20 ou 25 ans chez des patients, sachant qu'en fait, les symptômes apparaissent que vraiment sur la deuxième partie d'évolution de la maladie. Ça débute en premier... Je ne sais pas si j'ai un pointeur ou... Bon, on va faire sans. Donc, en premier, en bas à gauche, en fait, il y a l'apparition de lésions qu'on appelle la neuropathologie, les lésions histologiques de la maladie d'Alzheimer qui se déposent au niveau du cerveau. Vous avez autour des neurones l'accumulation de plaques, qu'on appelle les plaques amyloïdes, et à l'intérieur des neurones, une dysfonction d'une protéine qui s'appelle la protéine Tau, qui est associée à la mort cellulaire, enfin la défaillance et ensuite à la mort cellulaire. Ça, ce sont les deux lésions qui apparaissent bien avant l'apparition des premiers symptômes. En pratique clinique, comment est-ce qu'on peut détecter l'apparition de ces lésions? En pratique clinique quotidienne, en fait, on ne peut pas, ou quasiment pas, vous allez voir après. On peut s'aider de ce qu'on appelle de l'imagerie fonctionnelle ou l'imagerie métabolique. Donc, il y a des traceurs qui peuvent cibler certaines protéines pour voir si elles s'accumulent à des mauvais endroits, par exemple. Et actuellement, on a aussi un moyen qui s'appelle une ponction lombaire. Donc, c'est un prélèvement de liquide céphalorachidien. Et on prélève un peu de liquide au niveau du dos et on peut doser des protéines dans ce liquide, mais qui sont un reflet de ce qui se passe au niveau du cerveau. Donc, ce n'est pas un marqueur direct de ce qui se passe au niveau du cerveau, c'est juste un reflet. Donc ça, c'est un élément qu'on a. Et donc, toutes ces anomalies, les anomalies morphologiques fonctionnelles, l'anomalie d'impunction lombaire, ça apparaît au cours du temps. Et ensuite, il y a l'atrophie cérébrale, l'amincissement des structures cérébrales, l'atrophie des zones cérébrales touchées par la maladie qui apparaît, mais finalement, après une longue phase d'évolution, et les symptômes apparaissent dans un deuxième temps. On parle de troubles neurocognitifs à un stade léger ou à un stade majeur en fonction de la présence d'un retentissement dans la vie quotidienne. C'est par exemple les activités pour gérer ses médicaments, gérer les papiers, les courses, prendre les transports tout seul, ces activités un peu complexes de la vie quotidienne qui sont atteintes. Et là, on commence à parler de troubles neurocognitifs majeurs, de maladies installées quand il y a vraiment une atteinte dans la vie quotidienne. Et donc ça évolue vraiment sur plusieurs années, 15 ou 20 ou 25 ans chez certains patients possiblement. En pratique, ici, c'est une publication en anglais. Alors, l'idée, c'est plus d'illustrer mon propos, mais c'est une publication qui est assez récente. Enfin, c'est récent. Ça date de 2018, où là, ce sont des chercheurs qui sont réunis. Et l'objectif, c'est, compte tenu de tout ce que je vous ai dit comme lésions neuropathologiques, c'est d'essayer de voir si on peut faire un diagnostic le plus précoce possible de la maladie, notamment avec la présence de l'atteinte amyloïde, les plaques amyloïdes dont je parlais tout à l'heure, ou de la pathologie Tau, l'accumulation en intracellulaire. Et donc, en fait, ils ont défini, en fonction de la détection ou pas de ces protéines, en fonction de la présence ou pas d'atrophie cérébrale, en fonction de la présence ou pas de symptômes, plusieurs types d'entités. Et finalement, de manière très caricaturale, chez un patient donné, quand on a la détection de la protéine amyloïde, la détection de la protéine Tau, quand on a une atteinte cérébrale avec une atrophie cérébrale localisée, quand on a une symptomatologie qui évoque la maladie, on rentre dans le spectre de la maladie neurocognitive. Et donc, d'emblée, vous êtes en train de me dire, mais finalement, peut-être en train de penser, si je vous laisse le temps de penser, vous êtes en train de penser qu'en fait, on n'est jamais sûr du diagnostic. Et en pratique, c'est vrai. Le diagnostic de certitude de la maladie, c'est sur un prélèvement au niveau du cerveau qu'on ne fait pas du tout en pratique clinique quotidienne. Donc, l'idée de ce genre de classification, l'idée de ce genre de recommandation, c'est de pouvoir parler un peu le même langage et de pouvoir parler de probabilité diagnostique. Le patient que j'ai en face de moi, est-ce qu'il remplit des critères? Est-ce qu'il a une probabilité de diagnostic de la maladie d'Alzheimer? Mais c'est compliqué, parce que cette classification, qui est une classification biologique, fait appel à de l'imagerie, à des marqueurs, notamment de la ponction lombaire dont je parlais tout à l'heure, qui sont pas recommandé en pratique clinique quotidienne. Moi, je suis gériatre chez les patients âgés, quelqu'un qui a une symptomatologie relativement caractéristique qui peut faire évoquer une maladie d'Alzheimer. La Haute Autorité de Santé me dit que dans cette situation-là, je ne suis pas censé faire la ponction lombaire pour détecter la maladie. Donc ce diagnostic biologique est intéressant, mais en pratique, parfois, on est un peu limité dans la pratique clinique quotidienne. Ce qui est plutôt récent et nouveau, là, depuis 1 à 2 ans, avec des publications, je vous ai mis une qui concerne la ponction lombaire avec le petit sigle en haut à gauche. Et puis surtout, la nouveauté, c'est le fait de faire les prises de sang. Alors j'espère que vous ne serez pas comme la personne en haut à droite qui tombe quand on voit apparaître l'aiguille. Mais en fait, la nouveauté, c'est que ce sera probablement plus facile de faire un diagnostic de maladie d'Alzheimer, parce qu'il y a plusieurs études sorties dans des très bonnes revues qui montrent qu'on a la possibilité de détecter cette protéine amyloïde et cette protéine tau, et principalement la protéine tau, qu'on a la possibilité de la détecter lors d'une prise de sang. Après, toute la question, c'est à qui est-ce qu'on va proposer la prise de sang. Là, pour le coup, on n'en est pas là. On est dans le cadre de la recherche qui dit que, possiblement, ça serait plus facilement accessible d'avoir un reflet de ce qui se passe au niveau du cerveau par la protéine tau, et donc plus facilement accessible qu'une ponction lombaire, par exemple. Par ailleurs, en fonction de ce que l'on peut détecter sur la prise de sang, on peut voir la protéine tau qui peut être modifiée. On parle d'hyperphosphorylée. À un endroit d'un acide aminé, le 181, ou un autre endroit, par exemple le 247. Et ces endroits d'hyperphosphorylation peuvent être associés à une probabilité plus importante de diagnostic. Donc on pourrait s'imaginer que dans les mois et les années qui viennent, si on a accès à ces marqueurs sanguins qui sont validés, qui sont utilisés, qui sont positionnés dans le parcours de soins du patient, on puisse avoir un diagnostic de probabilité un peu plus important et un peu plus élevé, et du coup faire un diagnostic beaucoup plus précocement que ce qu'on est capable de faire actuellement, où finalement on est quelque part, pour avoir tous les critères diagnostiques, on est souvent obligé d'avoir un retentissement dans la vie quotidienne et la maladie qui a déjà évolué pendant 10 ans avant de pouvoir faire le diagnostic de maladie d'Alzheimer. Donc ça, c'est une perspective intéressante ces derniers mois. Mais, il y a un mais évidemment, ça c'est une autre étude, encore une fois c'est en anglais, c'est juste pour illustrer mon propos, mais vous voyez sur cette diapositive plusieurs couleurs. Il y a du rouge, là où on voit la protéine tau qui est fortement fixée à un endroit du cerveau, il y a du gris là où elle n'est pas fixée, il y a du jaune là où elle est un peu moins fixée, et en fait on s'aperçoit, quand on regarde plusieurs patients, plus de 1000 patients qui ont ce qu'on appelle une imagerie tau, c'est un traceur qui permet de détecter les protéines tau qui ne sont anormales, et quand on enregistre et qu'on fait une photo de quelque part de ces traceurs-là, on s'aperçoit qu'en fait, il y a des patients qui ont des trajectoires différentes de dissémination de la protéine tau. Donc ça rajoute une complexité, parce que ça voudrait dire qu'il y a certains patients qui ont... Ce n'est pas aussi, caricatural que ce que je vous ai montré tout à l'heure, l'évolution. Il y a des patients qui pourraient avoir des évolutions qui seraient différentes d'autres personnes, et qui pourraient avoir des symptômes qui seraient différents des autres. Donc ça introduit une complexité. Et donc l'idée, c'est de diagnostiquer tau, mais diagnostiquer tau... Ça serait encore mieux de savoir si le fait de diagnostiquer tau serait accompagné avec une probabilité d'évolution et de savoir quels symptômes vont apparaître. Donc ça nécessitera forcément d'autres études avec un suivi régulier des patients pour voir où est-ce qu'est cette fameuse pathologie tau qui est associée à l'évolution de la maladie. L'autre chose, c'est que tout à l'heure, je vous ai parlé d'un diagnostic de la maladie avec un retentissement dans la vie quotidienne. Si on reprend un peu tous les critères qui permettent de diagnostiquer la maladie, donc il y a effectivement le retentissement dans la vie quotidienne, il y a le fait d'avoir des tests neuropsychologiques ou des tests de dépistage de la maladie qui sont perturbés, mais en fait la toute première chose qui apparaît souvent, c'est la plainte par exemple de la mémoire ou la plainte de difficultés de gestion du quotidien, et ça apparaît rapporté soit par le patient, soit par son entourage. Parfois les patients ne se rendent pas forcément compte qu'ils ont une atteinte de leur fonction cognitive. Donc cette plainte, que initialement on appelle plainte cognitive subjective, quand elle n'est pas accompagnée de tests qui sont anormaux, quand elle n'est pas accompagnée d'un retentissement dans la vie quotidienne, on est vraiment au début de la maladie, où la maladie commence à apparaître, il n'y a pas encore de retentissement dans la vie quotidienne. Cette plainte cognitive subjective, parfois on ne sait pas trop quoi en faire. On a des patients en face de nous, on leur dit « vous avez une plainte, mais finalement les tests que je vous ai fait sont normaux, dans la vie de tous les jours vous vous débrouillez très bien, je n'ai pas les critères qui me permettent de dire que vous avez une maladie d'Alzheimer, mais peut-être que si un jour j'ai des biomarqueurs qui permettent de renforcer une probabilité diagnostique de la maladie, votre plainte elle voudra peut-être dire quelque chose ». Mais la question, c'est finalement depuis combien de temps dure cette plainte. Et donc là, on commence à discuter autour de la plainte du patient. Donc là, ce qui est intéressant dans cette étude-là, c'est qu'en fait, ils ont fait plusieurs groupes d'âge selon l'âge des patients, plus de 75 ans, moins de 75 ans, et surtout sur la durée de la plainte. Et donc, par exemple, dans cette étude-là, ce n'est pas forcément ce qui se passe dans la vraie vie, attention, ce que je vais vous dire, mais dans cette étude-là, quand on a plus de 75 ans et qu'on a une plainte qui persiste pendant 4 ans d'affilée, on a une probabilité d'évolution d'à peu près 75 ans, de 75% vers une maladie neurocognitive comme la maladie d'Alzheimer. Donc ça permet d'identifier des patients qui ont un risque important d'évolution et à qui peut-être on pourrait proposer un traitement curatif, si on en trouve un, ou un traitement préventif ou symptomatique chez certains patients qui sont plus ciblés. Donc ça, c'est une étude qui est potentiellement intéressante parce que dans la pratique clinique, en tout cas, ça nous aide pour le suivi des patients. Et si la plainte, elle persiste dans le temps, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, on a quand même une probabilité d'évolution vers la maladie qui est encore plus importante quand on est âgé que quand on est jeune. Et finalement, c'est un peu un état des lieux. Donc pour l'instant, comment ça se passe en France pour diagnostiquer la maladie? On se base sur les patients qui ont soit une plainte, dont je parlais juste à l'instant dans la diapositive, soit ce sont des populations à risque de la maladie, qui ont plein de facteurs de risque potentiels. Hélène Courtemanche en parlera tout à l'heure, sur quelle place a les facteurs génétiques. Je suis un petit spoil, mais je vous introduis la présentation. Et donc, souvent, c'est des gens qui ont des maladies cardiovasculaires. On verra après sur comment est-ce qu'on peut prévenir la maladie, mais diabétique, hypertendu, tabac, voilà, des pathologies comme ça. Donc, chez ces patients-là, en général, on fait un premier screening, on essaie de détecter la présence ou pas de plaintes dont je parlais tout à l'heure, on fait des tests de neuropsychologie et ensuite, une fois qu'on pense qu'il y a peut-être une maladie neurocognitive qui est présente, la question c'est quelle est cette maladie-là. Et en général, en France, on oriente vers des neurologues, des gériatres ou des psychiatres qui sont spécialistes de la mémoire et qui font la démarche diagnostique dont je parlais tout à l'heure avec des examens complémentaires, parfois jusqu'à la ponction lombaire, et à la fin, on a une probabilité diagnostique. Et donc peut-être que dans les mois ou les années qui viennent, quand on aura accès à ces biomarqueurs plasmatiques sur la prise de sang, on pourra peut-être modifier un peu le parcours des patients. La question, c'est à qui est-ce qu'on devra proposer ces marqueurs plasmatiques? Probablement pas en population générale, parce qu'on ne saura pas quoi faire de ces résultats en population générale. Mais c'est peut-être ça le futur de la démarche diagnostique des maladies d'Alzheimer, c'est la possibilité de mettre ces biomarqueurs pour renforcer la probabilité clinique de la maladie d'Alzheimer. On parle du traitement curatif. Alors, j'avais déjà parlé l'année dernière de l'aducanumab. C'est un traitement anti-amyloïde. Je vous ai dit, dans la maladie d'Alzheimer, il y a deux lésions. La plaque amyloïde en extracellulaire et puis la protéine tau en intracellulaire. Ça, c'est un anticorps qui agit, l'aducanumab, qui agit sur les plaques amyloïdes et qui est censé, excusez-moi du langage, mais qui est censé un peu nettoyer le cerveau de ces plaques amyloïdes. Et il y a eu des études qui sont sorties qui s'appelle Emerge et Engage, donc j'avais déjà parlé l'année dernière, qui montrait que chez certains patients, donc il y a 3285 patients dans 20 pays, c'est vraiment des très 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 grosses études, chez ces patients qui avaient un MMS super à 24, qui était vraiment au début de la maladie, la question c'était est-ce que ce traitement est associé à une moins bonne évolution de la maladie ou est-ce que la maladie évolue moins bien? En pratique, ce qui était particulier, c'est que le laboratoire a communiqué à plusieurs reprises sur ce traitement-là. Dans un premier temps, ils ont dit que ce traitement n'avait pas d'effet, que contrairement à toutes les phases de développement qu'ils avaient faites jusqu'à présent, où il y avait possiblement un effet, chez des vrais patients, il n'y avait pas d'effet, dans une première analyse. Et en fait, ils ont pris un peu plus de patients. Et là, ils se sont aperçus, en octobre 2019, qu'il y avait une des deux études, qui s'appelait Emerge, qui est devenue positive, et dans l'autre étude, qui s'appelle Engage, dans un sous-groupe de patients, et que dans ce sous-groupe-là, qui avait une forte dose de traitement, potentiellement, il peut y avoir un effet de ce traitement sur l'évolution de la maladie. Mais, donc, finalement, c'était quand même un gros espoir. C'est quand même la première fois qu'on a un médicament anti-amyloïde qui peut avoir un impact sur l'évolution de la maladie. Donc, c'est quand même assez intéressant. On estime que ça correspond à 20% de différence d'évolution de MMS. Donc, c'est une échelle qui évalue les fonctions cognitives. Donc, 20% entre ceux qui sont traités et ceux qui ne sont pas traités. En pratique, ça représente 3,3 points d'évolution sur 18 mois chez ceux qui ne sont pas traités. Et ceux qui sont traités, 2,7 points d'évolution sur 18 mois. Donc, vous allez dire, mais qu'est-ce que ça veut dire que ces chiffres-là? En fait, en pratique, on est à la limite de la significativité clinique. C'est-à-dire que le fait de perdre 2,7 points au lieu de 3,3 points, en pratique, ça ne veut pas forcément dire grand-chose, dans le sens où on a du mal à vraiment voir la différence entre les deux. Par ailleurs, le fait qu'il y ait une étude qui soit positive et l'autre qui soit négative et qu'on aille chercher dans un groupe de patients la positivité, c'est méthodologiquement un petit peu limite, enfin pas forcément très rigoureux. Et dans cette étude-là, il n'y avait pas d'amélioration des symptômes, c'est une certaine stabilité, c'est qu'il y avait une petite décroissance, mais une décroissance qui était un peu moins importante dans le groupe qui était traité par rapport à ceux qui ne sont pas traités. Et évidemment, pas de considérations médico-économiques. L'année dernière, je pense que je vous avais dit qu'on ne savait pas exactement comment coûterait ce traitement. En gros, ça serait 50 000 euros par patient et par an, sachant qu'il y a 1 million de personnes qui ont une maladie d'Alzheimer en France. Imaginez le coût que ça peut représenter pour la société. Malgré tout, depuis l'année dernière, il y a eu une approbation aux États-Unis. Le 16 juin, la FDA, qui est une agence de médicaments aux États-Unis, a dit qu'on pouvait l'utiliser, et il y a des recommandations pratiques qui sont sorties sur comment est-ce qu'on est censé utiliser ce traitement et à qui on peut donner ce traitement. Donc la question, c'est est-ce que en Europe, on va avoir la possibilité de donner ce traitement-là à des patients? Pour l'instant, on ne sait pas. D'après ce qu'on sait, la décision serait rendue fin d'année ou début d'année prochaine, fin de cette année ou début d'année prochaine. Donc il est possible que l'année prochaine, on puisse proposer ce traitement-là. En tout cas, on a déjà les recommandations de pratique et c'est déjà disponible aux États-Unis, même si, vous l'avez compris, l'efficacité est un peu controversée et un peu débattue. C'est quand même une efficacité, mais qui a la limite de la significativité clinique. Et la dernière chose sur laquelle je voulais faire un point avec vous, c'était sur les traitements préventifs de la maladie. Ça, c'est une publication qui est sortie en 2020, l'année dernière. Et ce qui est intéressant dans cette publication-là, c'est qu'ils font vraiment le point entre les facteurs de risque de la maladie qui ont un impact sur un risque de maladie en fonction de leur présence lors de la vie des gens. Par exemple, il y a des facteurs de risque que vous voyez entourés en bleu, c'est la perte d'audition, le traumatisme crânien, l'hypertension artérielle, la consommation d'alcool et l'obésité. Ça, si on a ça en milieu de vie, on a une probabilité beaucoup plus importante de développer la maladie dans un deuxième temps. Donc on sait que si on joue sur ces facteurs-là, en équilibrant l'attention, on évite de la désaffectation sensorielle en ayant un appareillage si on entend moins bien, on limite la consommation d'alcool en un régime adapté, on diminue notre risque d'évolution vers la maladie d'Alzheimer. Et il y a aussi des facteurs qui sont aussi associés en fin de vie, notamment le fait d'avoir une dépression, le fait d'être isolé sur le plan social, le fait de pratiquer une activité physique et sportive. Tout ça, ce sont les facteurs qui, même entre guillemets, on commence tard, même si on commence tard, si on commence, on a une diminution d'apparition de la maladie d'Alzheimer. Donc ça, ce sont des publications qui sont intéressantes parce que ça nous permet, au-delà d'un traitement curatif que pour l'instant, vous l'avez compris, on est un petit peu désarmé, on a quand même la possibilité de discuter avec les patients sur, en fonction de là où ils sont dans leur vie et en fonction de leur mode de vie, sur quoi ils peuvent jouer pour potentiellement limiter leur risque d'apparition et d'aggravation de la maladie d'Alzheimer. Ça, c'est une étude qui est sortie cette année. Alors, encore une fois, c'est en anglais, je suis désolé, hein, mais les publications sont toutes en anglais. Ça sert pour illustrer mon propos. Mais là, ils ont regardé tous les facteurs de risque dont je vous ai parlé, qui sont en haut, en tout petit, que vous ne voyez pas, peu importe. Ils ont comparé sur le côté gauche à tous les facteurs qui sont associés à l'apparition de la maladie, comme l'atteinte vasculaire, l'apparition de plaques amyloïdes, la dégénérescence neurofibrillaire, etc., etc. Et en fait, cette étude est assez intéressante parce que parfois, on a du mal à savoir si un facteur de risque joue vraiment sur l'apparition de la maladie en elle-même ou s'il joue sur la santé cérébrale. Et comme on a, entre guillemets, une moins bonne santé cérébrale, la maladie apparaît un peu plus tôt. Donc là, c'est le genre d'étude qui peut être intéressante où on voit que le niveau d'éducation, la pression artérielle, le cholestérol, le tabac et le diabète sont des facteurs qui peuvent jouer soit sur lésion de la maladie en elle-même, comme par exemple la pression artérielle ou comme par exemple le bilan lipidique, ou alors sur la réserve cognitive cérébrale comme certains des autres facteurs. Donc ça, c'est pareil. La science avance un petit peu pour savoir à quel endroit joue tel ou tel facteur et comment est-ce qu'on peut jouer pour limiter l'apparition de la maladie. Et j'ai bientôt fini sur les études en anglais, rassurez-vous. Là, c'est une étude qui est sortie récemment que je trouvais intéressante parce que ça peut avoir un intérêt pratique. En tout cas, pour moi, ça en a un et peut-être pour vous aussi si vous vous posez la question de qu'est-ce que je peux faire comme activité sportive. Là, c'est une étude qu'on appelle une méta-analyse, c'est-à-dire qu'ils ont poulé tous les résultats de plusieurs études pour faire une seule et même étude. Donc on gagne en puissance parce qu'on met plusieurs études en même temps dans la même publication. Et donc là, ils ont vu que si on faisait 2 à 3 séances par semaine pendant au moins une demi-heure, 30 à 60 minutes d'activité physique sportive, qu'on fait ça pendant au moins 2 mois, même si idéalement c'est 6 mois, si on fait ça et qu'on fait une activité qu'on appelle aérobique, donc c'est une activité où vous commencez avoir des difficultés à parler et à transpirer, c'est ce niveau d'intensité à peu près, pas une activité intense, une activité où vraiment vous montez les escaliers, vous transpirez un petit peu, vous avez du mal à parler, mais vous n'êtes pas non plus en train de faire un sprint, quoi. Ce type d'activité-là, associé à des activités de renforcement musculaire, je ne sais pas si vous avez un abonnement à la salle de sport à côté de chez vous, mais je n'ai pas d'action dans les salles de sport, je n'ai pas de conflit d'intérêt avec les salles de sport non plus. Enfin, en tout cas, si vous faites ça, vous limitez l'apparition et le déclin de la maladie. et ce, quel que soit l'âge. Donc, c'est quand même une publication intéressante qui peut avoir un impact pratique. Et alors, je passe sur tous les autres conseils. J'ai trouvé cette brochure de l'association Recherche Alzheimer assez intéressante. Je vous conseille de la lire en détail si vous vous posez des questions particulières sur qu'est-ce que je peux faire à part l'activité sportive pour limiter l'apparition et l'aggravation de la maladie. Bon, manger sainement, bouger, stimuler vos neurones, etc., etc. Ce sont des petits conseils simples et dans la petite brochure que vous trouverez là, vous trouverez des conseils plus pratiques que juste dormez bien. Voilà. J'ai fini. Merci de votre attention. J'espère avoir été clair et je suis évidemment à votre disposition si vous avez des questions.